Vous écoutez, on lit pour vous.
Investir dans l'entretien, une solution simple contre les nids de poules. Un texte de Marco Fortier, paru le 4 février 2026 dans Le Devoir. Si les rues de Montréal ont l'air d'un champ de mine, c'est principalement à cause d'un manque d'entretien des chaussées. Les experts sont unanimes à ce sujet. Et la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, qui a subi deux crevaisons dues au nid de poule cette semaine, a raison de prévenir que le pire est à venir. Les épisodes de gel et de dégel qui font se fissurer l'asphalte sont appelés à prendre de l'ampleur dans les prochaines années, avertissent des chercheurs en génie civil. Je pense que le problème des nids de poule n'est pas dû aux mauvais matériaux ou à de mauvaises techniques de construction. On doit d'abord investir dans l'entretien des chaussées. Il faut aussi revoir nos façons de concevoir, réhabiliter et entretenir nos routes pour les rendre résistantes au changement climatique, dit Éric Lachance-Tremblay, professeur en génie de la construction à l'École de technologie supérieure, ETS. L'expert en chaussées rappelle que les investissements de la Ville de Montréal, ainsi que d'autres municipalités et du ministère des Transports, dans l'entretien des routes sont insuffisants pour venir à bout du déficit de maintien d'actifs qui s'aggrave année après année. La vérificatrice générale de Montréal a souligné en août 2025 que la Ville n'en faisait pas assez pour réparer les nids de poules. Environ 30 % des chaussées artérielles et 40 % des chaussées locales étaient en mauvais ou en très mauvais état en 2024. Pourtant, les arrondissements sont incapables de dépenser les fonds budgétés pour colmater les nids de poules, notamment en raison de bris répétés des machines. À peine 3 % des rues locales en mauvais ou en très mauvais état ont bénéficié de travaux de maintien et de reconstruction de chaussées entre 2022 et 2024, a noté la vérificatrice générale. Pour cette raison, l'administration de Soraya Martinez-Ferrada a carrément réduit les budgets pour l'entretien des chaussées de 100 millions à 80 millions de dollars en 2026. Le but est d'éviter de payer inutilement des intérêts extrêmement coûteux sur les emprunts. Les intérêts sur la dette représentent à eux seuls plus de 16 % des dépenses annuelles de la ville. Faire les bons travaux. Le manque d'investissement dans les chaussées se fait sentir dans tout le Québec, souligne Serge Lefebvre, président de Bitume Québec, qui représente les entreprises de voirie. La quantité d'enrobés bitumineux, essentiellement de l'asphalte, produite au Québec est passée de 10 millions de tonnes à 8 millions de tonnes entre 2021 et 2024, précise-t-il. Il y a des usines d'asphalte qui n'ont pas ouvert à l'été 2025 parce qu'elles n'avaient pas assez de commandes. Ça fait des années que je suis dans la business, je l'avais dit en 2025. Les travaux n'ont pas été faits dans plusieurs municipalités. On va avoir plus de nids de poule. L'administration de Soraya Martinez-Ferrada doit donner un coup de barre dans l'entretien des chaussées et mieux cibler ses interventions, estime le professeur Éric Lachance-Tremblay. Oui, il est essentiel de colmater les nids de poule, mais la ville doit aussi s'assurer de faire des réparations plus complètes lors du retour du beau temps. Sinon, les trous reviendront inévitablement hanter les automobilistes dans les bouts de rue fissurés. Le chercheur constate que les villes négligent les travaux relativement mineurs dans les zones dégradées pour se concentrer en priorité sur les grands chantiers durant l'été. Il est aussi plus rentable politiquement d'inaugurer de nouvelles rues que d'entretenir celles déjà existantes. C'est une des raisons de l'éternel mauvais état des rues, selon lui. L'explosion du nombre de voitures contribue aussi à la destruction des chaussées. Le parc de véhicules personnels a augmenté de 57 % depuis 1990 au Québec, précise la plus récente édition de l'État de l'énergie au Québec. Les plus anciennes chaussées n'ont pas été conçues pour supporter un aussi grand volume de circulation, souligne le chercheur Éric Lachance-Tremblay. Le poids des véhicules électriques, de beaucoup supérieur à celui des voitures à essence, ajoute également une pression sur les rues. Des projets de recherche. Le laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux de l'ETS mène une série de projets de recherche qui visent à améliorer la résistance des revêtements aux aléas du climat. Éric Lachance-Tremblay et son équipe introduisent des techniques de réparation des chaussées courantes ailleurs dans le monde, mais peu utilisées au Québec. Une technique de recyclage à froid consiste à injecter du ciment et du bitume dans l'asphalte existant, ce qui évite d'avoir à retirer le revêtement et à le reconstruire. Un projet pilote sera mené à l'été 2026 à Montréal en vue d'instaurer le retraitement de l'asphalte sur place jusqu'à une épaisseur de près de 30 cm. Le chercheur Éric Lachance-Tremblay espère que les travaux du laboratoire de l'ETS mèneront un jour à du pavage plus confortable pour les automobilistes. D'ici là, la mairesse de Montréal a des préoccupations plus urgentes. Son administration cherche désespérément des colmateuses à louer pour régler, du moins temporairement, la crise des nids de poules. C'était « Investir dans l'entretien, une solution simple contre les nids de poules », un texte de Marco Fortier, paru le 4 février 2026 dans Le Devoir.
Renverser le diabète? C'est possible. Un texte de Katia Gagnon, paru le 5 mars 2026 dans La Presse. Deux études récentes du Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal, ICM, montrent que la moitié des patients atteints de prédiabète et près de 40 % des patients atteints de diabète sont parvenus à renverser leur diagnostic en l'espace de 6 mois avec un régime alimentaire approprié et de l'exercice physique régulier. Le but était de proposer une méthode innovante, de ne pas juste accepter que le diabète de type 2 et le prédiabète sont des conditions à vie, explique le cardiologue Joseph Iglesias-Gros de l'ICM, l'un des nombreux signataires de l'étude. C'est un changement complet de paradigme par rapport à ce qu'on considérait comme un dogme en médecine, soit que ces diagnostics étaient irréversibles. La première étude, publiée en 2024 dans le Canadian Journal of Cardiology et le Canadian Journal of Diabetes, a montré que la moitié des 36 participants avaient réussi à inverser un diagnostic de prédiabète. La seconde, publiée il y a tout juste 2 mois dans les mêmes publications, affiche une tendance semblable. Parmi les 34 participants, 38 % ont réussi à renverser un diagnostic de diabète de type 2. Des résultats énormes, estime le cardiologue Joseph Iglesias-Gros, qui affirme plus tôt on agit, plus on a de chances de renverser un diagnostic. Comment les participants à l'étude y sont-ils arrivés? Encadrés par 16 professionnels de la santé, ils ont adopté une alimentation de type méditerranéen, couplée à une importante réduction des aliments ultra-transformés, AUT. Des formations leur ont été données sur les AUT. On leur a expliqué comment reconnaître ces produits, comment les remplacer. On pense que ça a eu un gros impact pour nos patients, dit le docteur Iglesias-Gros. Certains des patients ont aussi suivi un programme de jeûne intermittent de 16 heures par jour. Les participants à l'étude devaient aussi faire de l'exercice 5 fois par semaine, à raison d'une demi-heure chaque fois et 2 séances de musculation hebdomadaire. Bien entouré. Ces résultats sont encore plus probants que ceux de la clinique de rémission du diabète du centre EPIC, qui a elle aussi fait l'objet de publications scientifiques au cours des deux dernières années. En suivant un régime méditerranéen et un programme d'exercice, un patient sur cinq a réussi à inverser un diagnostic de diabète ou de prédiabète en l'espace d'un an. Leur condition physique et cardiovasculaire, en général, s'est aussi améliorée de façon significative. France Wagner est l'une des participantes de la clinique du diabète. Elle a perdu 25 livres en un an, diminué son tour de taille et inversé un diagnostic de prédiabète reçu en 2023. Elle se souvient. « J'espérais pouvoir défaire ou renverser ce diagnostic, mais il fallait que je sois entourée pour réussir. » C'est ce qui est arrivé. Avec cette équipe exceptionnelle, j'ai pu le faire. Madame Wagner dit avoir éliminé à 80 % les aliments ultra-transformés dans son régime alimentaire, dont son verre de Coke diète quotidien. Le plus difficile? S'astreindre à la musculation, qui ne faisait pas partie de son quotidien, dit-elle. Or, augmenter la masse musculaire est primordial pour diminuer la glycémie sanguine, souligne le docteur Iglesias Gros. Claude Brion a lui aussi participé à l'étude de la clinique de rémission du diabète. Malgré une perte de poids importante, près de 50 livres, il a tout de même fait un infarctus en août 2023. C'est à ce moment qu'il a reçu le diagnostic de prédiabète, l'un des facteurs qui l'ont mené à la crise cardiaque, en plus d'un lourd héritage génétique. Son régime de vie était déjà bon. Exercice régulier, alimentation relativement saine, méditation quotidienne, pas d'alcool. Mais les directives de l'étude l'ont vraiment fait progresser sur le plan alimentaire. Il a réussi à perdre 10 livres supplémentaires et à sortir de la zone dangereuse du prédiabète. Le programme a vraiment amélioré ma façon de m'alimenter, dit-il. Si je n'avais pas fait tout ça, je serais décédé. Jamais je ne retournerai en arrière. C'était Renverser le diabète, c'est possible. Un texte de Katia Gagnon, paru le 5 mars 2026 dans La Presse.
Combat éthique, au pluriel. Un texte de Carl Rétineau-Parazelli, publié dans l'actualité édition de septembre 2025. En sous-titre, l'investissement responsable est en recul. C'est sans doute une occasion de revoir les critères qui le définissent, plaide un expert. Des nuages gris flottent au-dessus de la finance verte. Des investisseurs de partout dans le monde retirent leurs billes des fonds ESG qui, comme leur nom l'indique, tiennent compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les retraits nets ont totalisé 8,6 milliards de dollars américains au premier trimestre de 2025, du jamais vu, selon la société américaine Morningstar. Celle-ci attribue la situation notamment au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, depuis lequel la croissance économique et la défense ont pris le pas sur le climat et les avancées sociales. Ce recul ne décourage cependant pas Philippe Zaouati, Z-A-O-U-A-T-I, PDG de Mirova, une société internationale de gestion d'actifs établie à Paris, qui a fait de l'investissement durable sa spécialité. L'actualité l'a rencontré lors de son récent passage à Montréal dans le cadre du Sommet de la finance durable organisé par Finance Montréal. Le record de retrait des fonds ESG atteint en début de l'année vous inquiète-t-il? Il y a effectivement un recul en ce qui concerne les investisseurs particuliers. Je pense que cela est davantage lié à une sous-performance temporaire dans cette catégorie de fonds qu'à un rejet de la pertinence des critères ESG, note de la rédaction. Le rendement médian des fonds ESG a, par exemple, été de 1,3 points de pourcentage inférieur à celui des fonds traditionnels au cours des 6 derniers mois de 2024, selon la banque d'investissement Morgan Stanley. En ce qui concerne les investisseurs institutionnels, je ne vois pas de changement majeur. Ceux qui sont convaincus de l'importance d'investir de manière durable le demeurent. Lors du sommet, vous avez affirmé qu'il ne fallait pas que la finance durable soit une finance de niche. Que voulez-vous dire? Je crois qu'il faut s'assurer de ne pas retourner au point de départ, qui était de s'adresser à un public niché. Il faut comprendre la réalité d'aujourd'hui et, au besoin, revoir nos critères de sélection. Par exemple, il me paraît plus logique de se demander à qui une entreprise vend ses armes et qui va les utiliser que d'exclure d'un fonds une entreprise du secteur de la défense parce que la défense, c'est mal. Comme gestionnaire de fonds ESG, il ne s'agit pas de renier qui on est, mais plutôt de trouver le meilleur moyen d'être attirant pour les investisseurs dans le monde actuel. Lors de nos analyses d'entreprise, il faut déterminer les vraies problématiques environnementales et sociales plutôt que de créer des cases et de s'assurer que ces entreprises y entrent. Peut-on compter sur les fonds ESG pour financer sa retraite? Tout dépend bien sûr des produits d'investissement qu'on achète et de l'horizon de placement. Mais il n'y a aucune raison de penser que ce type d'investissement sera défavorable à long terme. Ceux qui affirment que des fonds durables seront moins performants que des fonds traditionnels dans l'avenir n'en savent strictement rien. L'investissement durable n'est pas de la philanthropie. Il consiste à faire confiance à des gestionnaires qui ont les critères ESG en tête et qui n'ont qu'une seule obsession, trouver les bons placements. Les énergies renouvelables, c'est rentable. Les investissements en santé, en éducation, c'est rentable. Je crois donc qu'il est possible de construire des portefeuilles d'investissement ESG à la fois très diversifiés et très performants. Fin de ce texte, qui est un compte-rendu d'entrevue, sous le titre « Combat éthique », au pluriel, réalisé par Carl Rétineau-Paraselli, texte publié dans l'actualité, édition de septembre 2025.
Fuir la complexité, un dossier de Marc Thibodeau, paru le 15 février 2026 dans La Presse. Karen Stenner, spécialiste de psychologie politique établie en Australie, a avancé dans un ouvrage écrit il y a une vingtaine d'années, « The Authoritarian Dynamic », que les sociétés occidentales comptent en leur sein un nombre important de citoyens présentant des prédispositions autoritaires. La chercheuse désigne par cette expression des individus qui tolèrent mal la diversité et la complexité et veulent minimiser les différences sociales. Ils tendent, selon Mme Stenner, à se radicaliser lorsque l'homogénéité, à laquelle ils aspirent, semble s'éloigner et sont susceptibles alors de vouloir se rallier à des dirigeants musclés. Des études empiriques menées à partir de questionnaires indiquent, relève Mme Stenner dans un échange de courriels, qu'environ un tiers de la population des pays occidentaux serait concernée. Le résultat a été estimé à partir de sondages à grande échelle permettant notamment d'évaluer l'attitude des répondants en matière d'éducation des enfants, un indicateur jugé révélateur de leur propre penchant par rapport à l'autorité. L'activation de leurs prédispositions autoritaires repose notamment, selon la chercheuse, sur leur perception des menaces pesant sur leur groupe sur le plan racial ou ethnique, de la perte de respect envers les institutions et de la perte, réelle ou imaginée, de valeurs communes. La détérioration de leur situation financière personnelle ne semble pas avoir d'incidence sur leur comportement. Toute impression que le groupe auquel ils s'identifient perd du terrain sur ce plan a cependant un impact, dit la chercheuse. Jonathan Durand-Folco, professeur de philosophie de l'Université Saint-Paul en Ontario, qui étudie la montée des autoritarismes, note qu'il existe une littérature abondante explorant les facteurs pouvant expliquer pourquoi les individus sont susceptibles de se rallier à un discours stigmatisant. Il relève, dans son livre « Le fascisme tranquille », que la porte d'entrée à l'adhésion autoritaire est la peur, qui peut être alimentée par divers facteurs socio-économiques, comme la précarité économique, le déclassement, la guerre ou les attentats. Cette peur, note l'auteur, va de pair avec des sentiments de dégoût, de ressentiment ou d'hostilité, dirigés vers des étrangers, des élites ou les woke désignés à la vindicte populaire par des acteurs de l'arène médiatique et politique. Le phénomène n'est pas propre à la droite, puisque plusieurs régimes de gauche ont cherché à diaboliser certains segments de la population pour consolider leur emprise sur le pouvoir, que ce soit les Khmers rouges au Cambodge ou encore l'URSS sous Staline, qui a été étudiée par Hannah Arendt dans « Les origines du totalitarisme ». L'adhésion à la construction d'un « groupe ennemi » va aussi de pair avec un fort sentiment d'appartenance au « nous » qui peut être vu comme une forme paradoxale d'amour, relève M. Durand-Folco. La dichotomie mise de l'avant par le leader fort constitue une sorte de « promesse de paix » pour le citoyen fragilisé qui se rallie à la quête d'un ordre ancien mythifié, dit le chercheur. C'était « Fuir la complexité », un dossier de Marc Thibodeau, paru le 15 février 2026 dans La Presse.
Le patin libre et le fascisme. Un texte d'Alexandre Hamel paru le 2 mars 2026 dans Le Devoir. Comme le petit prince avec ses baobabs, nous travaillons à l'arracher et à le combattre tous les jours. En 2024, le patin libre a été invité au John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts de Washington pour présenter sa pièce de patinage contemporain « Murmuration ». Quelques mois plus tard, ce théâtre respecté et progressiste fut victime d'un scandaleux takeover du gouvernement Trump. Le centre fut illégalement affublé d'un nouveau nom. Nous avons envisagé d'annuler, malgré le risque de poursuite. Nous n'appuyons pas l'actuel gouvernement américain et la chute du Kennedy Center. Toutefois, après concertation avec nos artistes, nous avons décidé de jouer. Une bande de patineurs contestataires, punk, LGBTQ+, fumeurs de potes, fils d'immigrants, scientifiques et urbains ont planté une œuvre chorégraphique défiante en plein sur la pelouse de Donald Trump. Pour nous, c'était un acte de résistance. À travers le bruit de la polarisation médiatique et des chambres d'écho en ligne, il a été mal expliqué. Nous respectons le boycottage du centre par d'autres artistes et une large part de son public habituel. Ces gens ont des sensibilités politiques semblables aux nôtres. Toutefois, nous avons décidé de réagir autrement à la profanation du Kennedy Center et aux troubles sociopolitiques dont elle fait partie. Le fascisme, ce n'est pas uniquement des narcissiques fous de pouvoir qui prennent le contrôle d'une société. Le fascisme, c'est aussi la paresse, le dédain et l'isolement abdicatif des personnes qui devraient combattre. Comme les baobabs étrangleurs de planète du Petit Prince, il faut patiemment arracher et combattre le fascisme tous les jours. C'est un travail salissant, ennuyant et parfois risqué. Mais c'est nécessaire, car les graines de baobab fascisme sont là et seront toujours là. Le fascisme pousse là où les jardiniers faillissent à leur tâche. En tant que société, nous avons collectivement échoué à notre tâche de jardinage antifasciste, et ce, depuis plusieurs années. On le voit dans les actualités et dans notre vie de tous les jours. Avec mon collectif, je veux faire mon travail de jardinage. Je veux aller où ça barde et en terrain adverse, si nécessaire. Je veux générer le vrai dialogue, celui qui implique des allégeances opposées. Je veux casser les murs de ma chambre d'écho. En vivant des expériences artistiques élevantes avec des spectateurs rassemblés malgré leur diversité, je veux mettre au défi le fascisme qui gagne en nous divisant. J'apprécie mes occasions de le faire dans les maisons de la culture et les festivals artistiques Safe Space, mais ce n'est pas assez pour le patin libre. C'est pour ça que le patin libre est allé jouer au Kennedy Center. Nous subissons maintenant une violente pluie d'insultes. Nos détracteurs auraient voulu que nous exprimions notre opposition exactement comme eux. Ce boycottage est facile et suffisant pour sauver sa propre peau et montrer qu'on ne fait pas partie du problème. C'est bien, individuellement. Mais c'est clairement insuffisant pour collectivement résister à la menace. Avec mes compagnons, j'ai donc choisi de ne pas si facilement tourner le dos au fascisme. J'ai choisi d'y faire face, de planter mes lames dans son nouveau théâtre privé et de remuer un débat nécessaire. Notre spectacle Murmuration commence par une belle tribu qui patine comme volent les grandes nuées d'oiseaux. Ses membres sont organisés par des systèmes de règles simples appelés algorithmes. Va dans la même direction que tes voisins, reste au milieu du groupe pour éviter les dangers à l'extérieur, etc. L'ensemble crée des formes magnifiques, mais l'individu n'a aucune compréhension du phénomène général. Ça vous fait penser à quelque chose? Immanquablement, le groupe se scinde en deux. Les factions opposées lapident leur bouc émissaire, puis se font la guerre. À la fin du spectacle, nous trouvons une solution chorégraphique pour retrouver l'harmonie. Ce fut la partie la plus difficile à chorégraphier. Dans les estrades que les techniciens du Kennedy Center ont installées pour nous, malgré leur peur de l'avenir, les spectateurs étaient en majorité bien pensants et venus pour nous soutenir. Il y avait aussi d'autres spectateurs probablement heureux d'aller au Trump Kennedy Center. Je le sais, car je les entends crier quand je fais mon double axel dans mon rôle de faucon prédateur. Je suis allé les remercier et leur serrer la main après le spectacle. Évidemment, des petits attroupements se forment autour des patineurs et patineuses en sueur et en patin qui font cet au revoir personnel devenu une carte de visite du patin libre. Dans mon petit attroupement, il y avait des gens des deux factions. Ensemble, sous la pluie de février, nous avons passé un petit moment à parler du spectacle, de l'art, du monde. J'ai espoir. C'était « Le patin libre et le fascisme », un texte d'Alexandre Hamel, paru le 2 mars 2026 dans Le Devoir. «